Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour, nous sommes le mardi 6 mai et vous écoutez l'émission mensuelle Drôles de dames sur fréquence 7. Votre radio toujours et encore décalée, pas pareille et différente. Aujourd'hui, l'émission se consacrera autour de l'intelligence artificielle.
Et oui, vous vous en serez douté, ce n'est pas moi, Florence, en chair et en os, qui ai présenté ce tout début de l'émission, mais bel et bien une intelligence artificielle, une IA. On sait désormais que les IA occupent de plus en plus d'espace dans nos vies quotidiennes, professionnelles, sociales, etc. Et la question est de savoir si ces IA peuvent, jusqu'à nous, remplacer. Alors, faut-il craindre l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle pour le meilleur ou pour le pire ? Alors si cette question sont vraiment légitimes, c'est parce qu'il faut se souvenir un instant du 20 janvier 2025, jour de l'inauguration du second mandat de Donald Trump, le président d'extrême droite des États-Unis d'Amérique. En effet, se trouvait derrière lui et assis côte à côte, Jeff Bezos, patron d'Amazon, Mark Zuckerberg, patron de Meta, anciennement Facebook, Sundar Pichai, patron de Google, et Elon Musk, le plus haut conseiller du président et l'homme le plus riche du monde surtout. Alors dans ces conditions, comment ne pas s'interroger quand on sait que l'IA est partout et que vraisemblablement quelques milliardaires ont la main dessus ? Pour quel projet de société plus largement donc ? Bref, c'est autour de toutes ces questions qu'on va échanger aujourd'hui dans cette nouvelle émission de Drôles de Dames. Alors Daniel, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'IA ? Déjà, de quoi s'agit-il ? Quels sont ses domaines d'existence et quels sont ses domaines d'application ?
Oui, bonjour à tous. Alors, la dite intelligence artificielle, je crois que c'est vraiment un terme qui est tout à fait contestable. Parce que c'est extrêmement osé de parler de réellement d'intelligence. On va le prouver d'ailleurs au cours de cette émission. En fait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques de simulation de l'intelligence qui est constitué surtout et avant tout d'algorithmes. Un algorithme, c'est quoi ? C'est une espèce de recette de cuisine pour les ordinateurs. Imaginez-le comme un ensemble d'instructions très précises pour résoudre un problème spécifique. Par exemple, l'algorithme de recommandation sur votre plateforme de streaming vous suggère des films parce qu'il pense que vous allez les aimer en fonction des choix qu'il a enregistrés précédemment. Voilà. Donc, un algorithme, il est basé sur des données. Plus il y a de données, plus les données sur lesquelles il se construit sont nombreuses, plus l'algorithme est soi-disant intelligent. Mais quand on écoute vraiment des spécialistes, ils vous expliquent qu'en fait, là où un enfant ou une enfant de 4 ans va reconnaître un chat en 15 secondes, l'IA, il va falloir lui fournir des milliers de données, de photos de chats, 4000, 5000, 6000, 7000 photos pour qu'il soit capable de reconnaître un chat. Donc bon, on voit qu'il y a quand même un fossé entre les deux. Donc, oui, ce que je voulais ajouter, c'est que l'IA, c'est pas une technologie qui est lointaine. On la vit déjà dans notre quotidien. Elle fait partie de notre quotidien. Déjà, comme le disait pour la plateforme streaming, ce sont des assistants vocaux, ce sont des générateurs de texte comme ChatGPT. C'est déjà présent. Hein, c'est déjà présent dans notre vie quotidienne.
Et donc, dans la science et la recherche aussi, hein, il y a des domaines d'application.
Alors, il y a des domaines d'application dans beaucoup de choses. On peut le retrouver dans le domaine artistique. Hein, ça permet de générer des œuvres d'art, de la musique, de la peinture. Dans le secteur du divertissement, il y a aussi des bandes dessinées qui peuvent être produites. Dans le design graphique, hein, le design de produits, ça peut également être utile. Tout ça toujours basé sur des données extrêmement nombreuses qui permettent après de reproduire des choses. Dans l'édition et le journalisme, alors c'est maintenant, ça fait partie des choses que les journalistes utilisent, hein, de générer des textes. Il y a des avancées alors qui existent effectivement dans ce genre-là également sur des dans la science par exemple hein, pour la découverte de médicaments, l'exploration spatiale. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'applications qui sont utilisées. Ça réduit le temps de recherche et ça réduit le coût de développement surtout. Donc ces avancées, elles posent cependant quand même des question importante sur l'originalité, la propriété intellectuelle et le rôle de la créativité humaine face à l'IA.
D'accord. Alors justement, tu viens d'évoquer le problème de créativité humaine. L'IA peut-elle se substituer à cette créativité humaine ? Autrement dit, si on définit l'intelligence par la capacité de s'adapter, associée à une conscience dont les caractéristiques essentielles seraient l'imprévisibilité, la liberté et la réception d'émotions. De quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle ? Et du coup, est-ce qu'on peut dire que l'IA peut créer comme les humains ? Et peut-on aussi vraiment parler de système d'intelligence artificielle autonome ?
Alors, ça impressionne l'intelligence artificielle, hein, parce qu'elle a une capacité de créer du contenu qui peut sembler authentique, mais elle est intrinsèquement limitée par son absence de compréhension contextuelle et émotionnelle. Ça veut dire qu'elle est capable de reproduire des choses, mais sans savoir, sans ressentir quoi que ce soit, sans être sensible au contexte. Les algorithmes, aussi avancés soient-ils, ne saisissent pas les subtilités émotionnelles et culturelles comme le ferait un esprit humain. Par exemple, l'humour, les allusions subtiles, les références culturelles et spécifiques, ça échappe à l'IA. Vous vous rendez compte les nombres de données qu'il faudrait pour... C'est impossible, ça paraît totalement impossible. Et donc, l'IA traite les choses, mais sans aucune véritable compréhension ni aucune profondeur. Hein, ça reste une espèce de répétition. La créativité authentique, c'est un pilier de l'expérience humaine qui reste hors de portée pour l'IA. Elle peut être réorganisée, elle peut réorganiser les données existantes, les données qu'on lui fournit, de manière un peu innovante, mais elle est incapable d'initier de véritables éclairs de créativité spontanée. Ces éclairs de créativité qui caractérisent les grandes œuvres, hein, aussi bien dans la science que dans l'art, que dans les idées philosophiques profondes. Donc l'inspiration qui naît souvent d'expériences et de réflexions profondément humaines ne peut être codifiée par des algorithmes. Bon, alors on peut parler des voitures autonomes, hein, puisque ça fait partie des choses que vise l'IA au cœur des technologies, mais ça paraît d'être encore très très loin d'être réalisable, parce que c'est extrêmement complexe. Un scientifique donnait un exemple, il disait, ils font des tests très régulièrement avec cette soi-disant voiture autonome, et il se passait une chose qu'il n'avait absolument pas prévue. Cette voiture était en train de circuler, donc pilotée automatiquement, et passe sur le trottoir un gars qui avait sous le bras un panneau stop. Et tout le monde se demandait pourquoi cette voiture autonome s'arrêtait toutes les 3 secondes. Et en fait, c'était en fonction de la marche du gars qui avait le panneau stop sous le bras, et la voiture s'arrêtait. C'est-à-dire qu'elle est incapable de dire « Ah, c'est un gars qui passe !» Et donc, ça n'arrive pas. Nous, ce qu'on fait en quelques secondes, elle est incapable. Alors, vous imaginez, l'IA en train de créer des données autour de « Attention, il peut y avoir un gars qui passe avec un panneau. » C'est impossible, quoi.
Oui, non, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire un jour un covoiturage, prendre un covoiturage avec un monsieur qui conduisait une Tesla, donc société tenue par Elon Musk. Et c'est vrai que lors de notre trajet, il y a un moment où il a activé le pilote automatique, où du coup, le véhicule se conduit tout seul et lui, il n'a pas à mettre les mains sur le volant. Et on sent qu'il y a vraiment un manque de finition sur ces véhicules. En fait, on sent que c'est pas encore parfait et à 100% prêt pour vraiment être commercialisé et être vraiment sans danger, quoi. On n'est pas serein dedans, quoi.
Ah, on est loin même d'être serein.
Oui, et puis ça questionne à nouveau effectivement la question de l'autonomie, en ce que un individu dit autonome, c'est un individu qui est capable de, justement de mesurer éventuellement quelque chose d'imprévisible, ce que précisément l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire. Hein. Il faut quand même rappeler que l'intelligence humaine se définit aussi par sa singularité. Mmh. Tout à l'heure, tu as évoqué la question des émotions, mais il y a vraiment cette idée de singularité, c'est-à-dire que chaque être humain a une intelligence qui ne consiste pas seulement en codifier quelque chose et qui suppose une forme de déterminisme, c'est-à-dire à telle cause, tel effet, mais bel et bien justement cette imprévisibilité.
Oui, et puis à l'extrême opposé de ce que fait l'IA, c'est-à-dire que là, ce sont des données qui sont reconditionnées, recalculées, mais qui n'ont rien à voir avec la spontanéité. Hein ? La perception spontanée de quelque chose, qu'on appelle ça intuition, perception, enfin, elle est fondamentale dans notre intelligence, parce qu'elle est reliée à des choses très profondes, à une expérience qui nous a mené à prendre les choses de telle et telle manière, et donc à réagir à des choses.
Et la spontanéité, ça définit la liberté, donc absolument, on est encore loin de tout ça. Et dans la vie professionnelle, Daniel, il y a aussi des impacts qui sont à noter.
Alors évidemment, l'intelligence artificielle, ça me gêne de parler d'intelligence, il faudrait qu'on trouve un autre mot, mais enfin bon, l'intelligence, ça va produire beaucoup d'automatisation, et donc ça risque de transformer le marché du travail, et ça va nécessiter certainement des adaptations des travailleurs à de nouveaux rôles et à de nouvelles compétences. En fait, on est un peu dans la reproduction de ce qui s'est passé au moment de l'arrivée de l'informatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque de l'arrivée de l'informatique un peu partout. Les gens ont beaucoup craint. C'est vrai que ça a transformé des métiers, ça en a créé d'autres, mais l'automatisation, ça va certainement dégager certains métiers et créer d'autres compétences. Il va y avoir certainement des disparitions de métiers, particulièrement ceux qui impliquent des tâches répétitives, prévisibles, puisque c'est exactement ce que sait faire l'IA. Hein, c'est, voilà, tout ce qui est répétitif et prévisible, elle peut s'en charger. Ça, ce sont des risques d'automatisation, en fait.
D'accord. Alors, du coup, on s'aperçoit qu'effectivement, l'intelligence artificielle va transformer hein, le monde du travail. Et la question est de savoir si, finalement, c'est une source d'aliénation ou, au contraire, d'émancipation, voire même, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer ? Alors ça, souvent, c'est une crainte qui est un petit peu généralisée, mais crainte qui peut être discutée. Donc l'IA transformerait le travail, mais à quel prix ? Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur la question historique de l'organisation du travail. Il faut quand même rappeler que depuis le 19e siècle, avec la révolution industrielle, et depuis le début du 20e siècle, avec l'apparition du fordisme et du taylorisme, qui a dicté hein, une espèce d'organisation dite scientifique du travail, eh bien, en dictant cette organisation-là, elle dicte justement une façon de travailler, puisque ce qui est visé dans le taylorisme, c'est l'efficacité. C'est-à-dire souvent ce qu'on va traduire en termes de résultats aujourd'hui. Alors, plusieurs principes dans le taylorisme, et ce sont ces deux principes que je vais évoquer là, qui questionnent vraiment cette question de l'aliénation possible dans le travail. Alors, premier principe, il y a d'abord la décomposition du travail en plusieurs tâches, ce qu'on appelle la parcellisation du travail. Autrement dit, la division du travail et la séparation entre la conception et l'exécution du travail. Et c'est là où, justement, la question du savoir-faire et de l'intelligence se pose, puisque dans cette organisation-là, tout se passe comme s'il y avait d'un côté ceux qui pensent l'organisation du travail, les penseurs, là, ceux qui savent, hein, en quelque sorte, et de l'autre, les exécutants et les exécutantes des ordres des premiers. D'accord ? Et donc, en fait, à cela s'ajoute un autre principe qui va être la nécessité de planifier l'ensemble de ces tâches, ce qui va donner naissance, par exemple, à l'idée de management algorithmique aujourd'hui. Et le management hein, consiste fondamentalement en cela. Or, dès le 19e siècle, la division du travail était pensée, et ce, parce qu'elle permettait de rendre le travail moins cher. Et on comprend la raison pour laquelle, en fait, les choses vont s'accélérer, y compris avec l'avènement donc de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi la division du travail permettait de rendre le travail moins cher? Tout simplement parce que, en réalité, les employeurs, ils n'achètent plus qu'une partie du travail, puisqu'il est décomposé, et non plus le travail dans son ensemble. Donc, le taylorisme est une logique constitutive du travail aujourd'hui. C'est-à-dire que le taylorisme n'a pas disparu, y compris dans l'avènement donc de l'intelligence artificielle. Et les nouvelles technologies même augmentent le taylorisme, puisque, d'une part, la personnalisation des tâches perdure, et d'autre part, la séparation entre exécution et conception est largement marquée et existante aujourd'hui. Par exemple, si on prend l'exemple des machines-outils numériques, eh bien, elles visent à déqualifier, par exemple, les tondeurs-fraiseurs en faisant le travail méticuleux qui nécessite un savoir-faire. Et du coup, il y a effectivement une déqualification. Autre exemple, ce qu'on appelle les call centers, les gens qui y travaillent disent d'ailleurs avoir une chaîne de montage dans la tête, parce que précisément, les gens, les travailleurs et les travailleuses doivent suivre les prescriptions des machines. Et qui dit prescription, dit absence de créativité et de décision de la part de l'individu. Et donc, on le voit, hein, le taylorisme, historiquement parlant, affecte aussi les services aujourd'hui. Et aujourd'hui, le recours à l'IA, et notamment l'IA générative, permet de déqualifier toutes les activités créatives, comme la traduction automatique, le journalisme, etc. Par exemple, au niveau des traductions, si les métiers ne disparaissent pas encore, hein, tout à l'heure tu évoquais cette question, Daniel, ils sont aussi déclassés. Donc on assiste partout, en fait, à une déqualification du travail. Et je voulais quand même terminer en faisant un parallèle justement avec un penseur du 19e siècle qui s'appelle Marx et qui critique justement le système capitaliste, et à juste titre, parce que il y voyait dans ce système-là une double exploitation, une exploitation économique qui visait justement à exploiter l'ouvrier et faire en sorte à ce qu'on le rémunère le moins possible, mais en même temps, il montre que la manière dont est pensé et organisé le travail rend complètement dépendants les individus à ce travail, et il va mettre de façon magistrale dans deux textes fondamentaux à mes yeux, à la fois dans le Capital et dans un autre qui s'appelle Les Manuscrits de 1844, il va mettre en place la question de ce qu'il appellera l'aliénation ou la déshumanisation, ou par opposition, ce qu'il appellera le travail authentiquement humain. Et c'est là où il pointe du doigt justement le pilier essentiel de la séparation entre la conception et l'exécution. Et pour cela, il dit très clairement, là pour le coup je vais vous citer cette citation qui est extrêmement célèbre, il dit très clairement, je le cite, « Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. » Autrement dit, hein, ce qu'il veut dire, c'est que tout individu doit se représenter à l'avance mentalement la tâche à accomplir avant de la réaliser. C'est-à-dire, je vais, du même coup, planifier ce que j'ai à faire avant d'exécuter. Et donc, on voit bien que pour lui, le travail authentiquement humain, ce n'est justement pas la séparation de la conception et de l'exécution. Hein, et donc, du coup, il va examiner dans de nombreuses pages en quoi la révolution industrielle, alors attention, hein, c'est pas encore le taylorisme et le fordisme, puisqu'il faudra attendre le début du XXe siècle pour que ce développement de ce type d'organisation du travail se fasse, alors que Marx a écrit Le Capital en 1867, mais il pressent déjà dans la révolution industrielle, dans la mécanisation, dans les manufactures, hein, dans les fabriques, il pressent déjà cette double exploitation. Alors on le voit bien, s'il y a une parcellisation des tâches contre le travail qualifié, le savoir-faire, alors il y a une perte de sens. Et donc, nous ne soyons pas étonnés si les individus s'interrogent profondément sur le sens qu'ils mettent dans leur travail, s'ils vivent des burn-out, ces burn-out traduisant à la fois une fatigue physique, mais aussi évidemment morale, intellectuelle, parce que précisément, ils ne savent plus pourquoi ils travaillent. Voilà, ça c'est extrêmement important de le rappeler. Alors tout à l'heure, Daniel, tu évoquais aussi la peur de remplacer les humains par les machines, un haut risque d'automatisation. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions. Et parfois, on va dire, une caissière va perdre son emploi et sera remplacée par une caisse automatique. Alors c'est là où c'est discutable, justement. C'est-à-dire où il ne s'agit pas absolument de tout jeter, si j'ose dire, parce que précisément, si on demande à une caissière si elle s'épanouit dans son travail, je ne suis pas intimement convaincue qu'elle le fasse. Et si elle reste là, c'est précisément pour avoir son salaire. Donc de fait, si on lui attribue un salaire ou l'équivalent d'un salaire pour lui dire que justement elle peut faire quelque chose qui lui plaît, il y a fort à parier qu'elle quitte volontairement son travail et que, ma foi, là, pour le coup, une machine puisse le remplacer. Donc, de fait, tout se passe comme si, effectivement, l'intelligence artificielle nécessite de repenser un projet de société et questionne politiquement, justement, cet avènement. Et il y a une question qui est essentielle, c'est justement la question du contrôle des salariés de l'intelligence artificielle. Il est urgent, à mon sens, que les citoyens aient un contrôle démocratique. D'où ma dernière question, Daniel. Donc l'IA est partout, on n'a pas tout cité, on vient d'en discuter. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas aspirer à un contrôle démocratique? Face à ces défis, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est vrai qu'il y a certainement beaucoup de choses à imaginer, mais en tout cas, il semble vraiment crucial que les développeurs, les régulateurs et la société civile travaillent ensemble pour guider l'IA vers des applications qui renforcent le bien commun, tout en minimisant les risques potentiels. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit ça l'enjeu. L'enjeu du capitalisme, le capitalisme veut baisser les coûts, avant tout. À notre avis, il s'agit pour nous, de trouver une gouvernance éthique qui protège la vie privée et qui s'adapte en fonction, bien sûr, du travail et des choses essentielles pour assurer que l'IA ne déborde pas et bénéficie à tous.
Très bien, merci beaucoup, Daniel. Alors, Claude, je me tourne vers toi. Quelles sont les nouvelles du jour?
Alors, les nouvelles du jour, rapidement. Là, je suis au bord du gouffre, je suis pas loin de tomber. Vous m'avez plombé mon après-midi. Mais bon, continuons à être vigilants, la lutte finale n'est pas terminée. Donc, Vincent?
Eh bien, c'est parti, on va se lancer, on va essayer de remonter un peu le moral de tout le monde, ça va être compliqué. Alors, Emmanuel Macron veut nous ficher grâce à l'IA.
Eh oui, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, intervient à l'Assemblée nationale et déclare en séance. Une enquête de Disclose révèle qu'en 2023, le président Macron a intrigué secrètement pour mettre en place la reconnaissance faciale biométrique au niveau européen. Le député demande des comptes à la ministre qui refuse de répondre.
Que se passe-t-il dans la région?
France 3, Auvergne-Rhône-Alpes diffuse un reportage sur la construction à Grenoble d'un superordinateur puissant comme un réacteur nucléaire. Ce méga data center dédié à l'IA inquiète les écologistes.
Wauquiez aurait-il la nostalgie du bagne?
Laurent Wauquiez, le bien nommé président des Républicains, propose d'enfermer les personnes dangereuses sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Au XIXe siècle, les pauvres étaient envoyés au bagne pour un morceau de pain volé. Monsieur Wauquiez n'a rien à se reprocher?
Toujours Emmanuel Macron, qui aurait peut-être, lui, la nostalgie des colonies.
Lundi 21 avril, visite d'Emmanuel Macron à Mayotte et Madame. Le président a annoncé dans son discours un nouveau plan de lutte contre l'immigration clandestine, baptisé « Mur de feu, de fer ». C'est la suite des opérations Wambushu. Des unités de police dédiées à la chasse aux immigrés, des nouveaux radars et intercepteurs seront également déployés en mer pour stopper les barges arrivant de Tanzanie et des Comores. Création d'une zone d'attente pour les immigrés en situation irrégulière, pour mieux réprimer et enfermer à la frontière. En soutien au centre de rétention administrative de Petite Terre qui est plein.
Les puissants n'aiment pas rendre des comptes.
Après Alexis Kohler, ex-conseiller de l'Élysée qui est parti pantoufler ailleurs, c'est désormais au tour du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin de refuser de se présenter devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Que fera François Bayrou le 19 mai au cours de son audition devant la commission d'enquête sur Betarame? Quelle attitude va-t-il choisir? Continuera-t-il à s'enfermer dans le mensonge ou pas?
Une justice à deux vitesses.
Alors que Rachida Dati oublie de déclarer 420 000 euros de bijoux dans son patrimoine, que Marine Le Pen est condamnée pour avoir détourné 4 millions d'euros, 4 salariés de l'aéroport de Marseille-Provence sont licenciés pour avoir donné des sandwichs invendus à des SDF.
Encore des emplois sacrifiés.
Le sidérurgiste ArcelorMittal va supprimer 600 emplois en France. Malgré 392 millions d'aides de l'État depuis 2013, il va délocaliser l'activité en Inde.
On nous raconte des carabistouilles.
Nathalie Loiseau, eurodéputée macroniste, déclare sur Sud Radio le 15 avril « Quand on vit au-dessus de ses moyens, il faut commencer à se serrer la ceinture. » À qui s'adresse-t-elle ? Elle oublie de préciser qu'elle perçoit plus de 10 000 euros mensuels. Elle vole en rase-motte, Loiseau.
Violence policière.
Un homme de 35 ans en pleine crise de démence est mort à Paris, après avoir été tasé, frappé, violemment maîtrisé par la police. Ça tombe bien, ce soir moi aussi je suis agressif, a lâché l'un des policiers chargés de le maîtriser. D'après le SAMU social, l'homme a été étranglé, frappé au visage et aux côtes et tasé à plusieurs reprises, y compris alors qu'il était déjà menotté au sol. Il portait un bracelet de l'hôpital, transporté en réanimation, il mourra. Excusez-moi, c'est à chaque fois que je lis ce truc, ça me bouleverse et ça me révolte. Il mourra quelques heures plus tard. L'IGPN a été saisi, les policiers n'ont pas été suspendus. Ceci est un article tiré de Mediapart.
Toujours plus de haine. Le 25... Avril, un homme entre dans une mosquée et tue un jeune fidèle, Aboubakar, en criant « Ton dieu de merde ». Aboubakar avait 24 ans. Le fascisme, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme n'ont pas leur place dans notre République.
Le monde du spectacle résiste.
Oui, le lundi 28 avril avait lieu la 30e nuit des Molières. Lors de cette cérémonie, Didier Brice, représentant de la CGT Spectacle, a pris la parole pour... déclaré devant la ministre de la Culture, Madame Dati, ceci. Novembre 2024, le patronat s'en prend une nouvelle fois à notre régime d'assurance chômage pour éliminer des milliers d'intermittents. Janvier 2025, le fonds PEPS, fonds de soutien à l'emploi, est menacé. Février 2025, gel de part collective du Pass Culture. Des milliers de représentations scolaires sont annulées, avec de lourdes conséquences sur l'emploi des artistes. Depuis l'obligation d'activité pour les allocataires du RSA, les artistes auteurs, déjà précaires, payent le prix fort, alors qu'ils se battent pour bénéficier enfin de l'assurance chômage. 80 millions d'euros retirés à l'audiovisuel public, on parle de dette de dépenses.
Alors Vincent, tout à l'heure, Daniel a soulevé les questions éthiques et politiques de la propriété intellectuelle et le rôle de la créativité humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Justement, je crois que tu veux nous parler d'un mouvement qui s'est constitué pour dénoncer le vol, en quelque sorte, hein, de talents artistiques. Un petit mot là-dessus ?
Ouais, vous les connaissez sans les connaître, ces voix qui ont accompagné nos soirées ciné. Nos séries préférées, nos dessins animés d'enfance, Brigitte Lecordier par exemple, la voix de Oui Oui, Emmanuel Curtil, inoubliable voix de Jim Carrey, ou encore Patrick Préjean, que l'on reconnaît entre mille, de Sylvestre dans Titi et Grosminet, à Tigrou dans Winnie l'ourson. Ces voix-là, elles font partie de notre patrimoine sonore, et aujourd'hui, elles se battent pour rester audibles, visibles et humaines. Aujourd'hui, depuis quelque temps, un mouvement est né, Touche pas à ma VF. Une réaction forte face à l'irruption de l'intelligence artificielle dans leur métier. Car désormais, avec quelques lignes de code, une IA peut imiter une voix existante, la faire parler dans toutes les langues, doubler un film, sans fatigue, sans cachet, sans émotion, ou presque. Et c'est bien là le problème. Parce que doubler un personnage, ce n'est pas simplement lire un texte, c'est jouer, incarner, ressentir. C'est adapter un ton, un souffle, un rythme. Ce que fait une IA, c'est imiter. Ce que fait un comédien, c'est interpréter. Alors le collectif Touche pas ma VF tire la sonnette d'alarme. Derrière les promesses de gains, de temps et d'argent, c'est tout un pan de la culture francophone qu'on met en danger. C'est plus de 15 000 emplois qui sont en danger. Artistes, production, ingénieurs du son, directeurs artistiques, auteurs et adaptateurs. Une voix générée ne remplacera jamais celle qui vit. Celui qui a une histoire, une chaleur, une humanité. Ce n'est pas seulement le doublage qui est en péril, mais tous les artistes, graphistes, musiciens, écrivains, chanteurs. On ne parle pas ici d'un simple métier en péril, on parle d'un art, d'un lien invisible mais essentiel entre une œuvre et son public. Et ça, aucune intelligence artificielle ne pourra jamais le coder.
Merci Vincent. Voilà, l'émission touche à sa fin et c'est le moment de nous quitter avec un morceau de musique du groupe Les Beatles qui a pu voir le jour justement grâce à l'IA. Ça s'appelle No and Then. Alors il faut savoir que près de 50 ans après la dissolution officielle du groupe en 74 et avec quelques membres qui sont encore parmi nous, les Beatles vont faire fureur avec cette chanson qui n'était pas censée connaître le jour. En effet, la femme désormais veuve de John Lennon en 1994 remet aux membres des Beatles une cassette démo qu'il avait enregistrée avant sa mort brutale en 1980. Les Beatles décident alors de réenregistrer les chansons à partir du travail de Lennon et c'est en novembre 2023 que le morceau dont qu'on va écouter va apparaître. Merci à tous.
Au revoir. It's all